Et si on partait sur Europe 1 tous les jours entre 16h et 18h, je vous emmène pour un grand voyage, tous les jours deux destinations, en France et au bout du monde, juste pour rêver. C'est parti.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Tout à l'heure, après le flash de 17h, je vous emmènerai dans un pays absolument fascinant. Un pays qui fut longtemps l'un des plus fermés au monde. Il s'est ouvert il y a quelques années et il recèle des trésors incomparables, préservés, comme le lac Inlay que j'adore, au milieu duquel flottent des villages entiers. Ou alors la région de Bagan avec 2000 temples répartis sur une plaine immense et un spectacle féerique. C'est un très grand voyage, nous irons ensemble en Birmanie. Et juste auparavant, une région dont le nom est une fête, en Champagne. Et vous verrez qu'en Champagne, il n'y a pas que le Champagne, c'est aussi une terre d'histoire et de villes splendides, comme la ville de Troyes, que j'aime beaucoup. Et ça, on le sait moins, c'est aussi une terre de grands lacs. On va se baigner en Champagne, mais oui. Ça va donc chauffer dans un instant. On va se régaler, boire, manger, se balader en Champagne, tout de suite, avec... Mes amis, mes compagnons de voyage, je ne pourrais plus partir sans eux. Nathalie.
Oui, bonjour.
Bonjour, Nathalie est là, l'auteur grande voyageuse. Avec aussi Emmanuel Jarry qui a rejoint la bande il n'y a pas très très longtemps. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Et puis Jean-Bernard du guide Lonely Planet. Alors la Champagne, on y part tout de suite. Bon, c'est en haut à droite sur la carte de France, on y boit bien. Comment on peut préciser les choses ?
On peut dire en fait, Philippe, que c'est entre le bassin parisien et ma très chère Lorraine. Voilà, on a tout dit là déjà.
Je pense que vous êtes la seule personne au monde qui définit la Champagne par rapport à la Lorraine.
Donc au nord, il y a un département qui s'appelle comme les Ardennes, dont on a parlé la semaine dernière. Et tout au sud, il y a la Bourgogne. Voilà, donc c'est vraiment l'entrée du Grand Est, si vous voulez. Bien sûr, des super paysages, vous l'avez dit, beaucoup de vignobles, des villes avec un très fort patrimoine. On pense bien sûr à Reims, à Épernay. Et vous l'avez dit, un patrimoine naturel très souvent sous-estimé. Beaucoup de lacs et beaucoup de forêts.
En Champagne, il n'y a pas que le Champagne.
Il n'y a pas que le Champagne, il n'y a pas que les vignobles.
Je trouve pas l'expression. Voilà, c'est ce qu'on dira dans cette émission. Excusez-moi, je finis piteusement.
Mais non.
J'ai essayé de trouver un mot, mais non, c'est pas venu. Nathalie, il y a des stars en quantité ou pas là-bas ?
Oui, il y a pas mal de monde. Ah. Là, on est dans l'ambiance tout de suite, hein, évidemment. Alors, si je vous dis Perceval le Gallois, Yvain ou le Chevalier au Lion, ou encore Lancelot du Lac, sont des romans de la Table Ronde qui sont tous signés de Chrétien de Troyes. Premier grand romancier français, on peut dire ça comme ça. Il est né en 1135 à Troyes. Et il parle de l'amour courtois, des légendes celtes, du mythique roi Arthur et bien sûr du Graal que tout le monde veut retrouver et n'arrive pas à retrouver, bien sûr. Autre temps, autre mœurs. J'ai envie de vous parler de Georges Danton.
Ah, oui.
Et oui, le révolutionnaire, enfin le futur, oui. Alors, il est né en octobre 1759 à Arcis-sur-Aube. Et le futur révolutionnaire n'a pas eu beaucoup de chance dans sa petite enfance, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a un an lorsqu'un taureau le blesse d'un coup de corne, donc il a la lèvre supérieure gauche complètement déformée. Et puis plus tard, il veut, comme on pourrait dire, se venger du taureau. Il veut se mesurer un taureau, il se fait écrabouiller le nez d'un coup de sabot. Et puis ensuite, il a le visage grêlé, littéralement, par la petite vérole, une maladie extrêmement contagieuse de l'époque. Alors sa tête est particulière, une tête dont il va dire au bourreau sur la guillotine en 1794 « Tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine ». On comprend pourquoi, évidemment.
Il avait le sens de la chute.
Et puis sinon, je voulais vous parler quand même d'un point commun, des personnalités tous nées à Reims, Jean-Baptiste Colbert, l'homme d'État sous Louis XIV, le journaliste aux initiales les plus célèbres de France, Patrick Poivre d'Arvor, le footballeur Robert Pires, et puis l'ex Miss France Élodie Gossuin qu'on salue. Bien, tous sont originaires de cette bonne ville de Reims.
Très bien, du joli monde. Emmanuel Jarry, vous êtes journaliste spécialisé dans le voyage et la gastronomie. Vous avez créé l'émission C'est meilleur quand c'est bon sur Internet. Alors, quand on vous dit champagne, est-ce que vous pouvez dire autre chose qu'il y a du bon vin ?
Ah non, des bulles et encore des bulles en champagne. Des bulles fines, élégantes et surtout, très important, le champagne, ce n'est pas uniquement une boisson pour la fête ou de l'apéritif, c'est vraiment des vins qui peuvent accompagner tout le repas.
Ah, vous êtes comme ça, vous.
Ah oui.
Vous dînez au champagne.
J'adore dîner au champagne.
Très bien. On en parlera tout à l'heure. Après 17h, je vous emmènerai en Birmanie qui se dit le En Birmanie, se dit le pays merveilleux. Et déjà, rien que ça, c'est tout un programme. Mais donc, dans un instant, nous partirons en Champagne, la région où serait symboliquement née la France, le jour du baptême du roi Clovis, dans la fameuse cathédrale de Reims, pendant une veillée de Noël au 5e siècle. C'est l'événement quand même qu'on considère comme fondateur de notre pays. Et puis dans un instant, nous serons en ligne avec François Barouin, maire de Troyes depuis 25 ans. Il est aussi président de Troyes Champagne Métropole et président de l'Association des maires de France. L'Aube, le département, c'est une histoire de famille chez les Barouin. On en saura plus dans quelques instants sur Europe 1.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait sur Europe 1, 2 heures de voyage tous les après-midi, juste pour le plaisir de rêver, de s'évader. Après 17h, je vous emmènerai au pays des pagodes aux feuilles d'or et du fleuve mythique Irrawaddy. Grand départ donc pour la Birmanie tout à l'heure à 17h. Mais là, tout de suite, nous sommes en Champagne, la région qui donne naissance aux vins effervescents, tout simplement les plus raffinés du monde, que voulez-vous dire d'autre ? Donc ces coteaux, ces maisons, ces caves sont également inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Et cet après-midi, notre guide est un homme qui n'a jamais oublié ses racines champenoises. Nous sommes en ligne avec le maire de Troyes, François Barouin. Bonjour François Barouin.
Bonjour.
Alors vous venez d'être élu, bravo, à la tête de la ville de Troyes.
Merci.
Ça fait plus de 25 ans que vous êtes maire là-bas. On s'est dit que vous connaîtriez bien la ville.
Oui, probablement, oui. Vous avez fait un bon choix, je pense.
C'est vrai ? Vous me rassurez. Ouais. Vous pouvez nous décrire un peu cette ville ? Parce que moi, j'y suis passé plusieurs fois. Elle a beaucoup de charme. Comment vous la décririez, vous ?
C'est une... Bon, pour moi, c'est la plus belle ville du monde. Ouais. J'y ai grandi et son âme, son charme, pour la décrire, si quelqu'un vient de l'étranger, arrive en France et veut comprendre la France, il vient à Troyes. Il vient à Troyes parce qu'il verra le poids d'une ville chargée d'histoire qui s'est structurée au fil des siècles autour de personnalités et d'une âme française. Il a été évoqué tout à l'heure, Chrétien de Troyes, et toute la mythologie qui emmène de manière universelle une conception justement de la recherche de quelque chose d'inatteignable. Vous pouvez rajouter des personnalités comme Rashi, qui est le plus grand exégète de la pensée juive et qui est l'une des références de la communauté juive dans le monde entier. Vous pouvez rajouter un peu plus tard des personnalités comme Marguerite Bourgeois. Vous pouvez rajouter de manière plus récente et qui parle encore à notre conscience de personnalité de malade imaginaire, le docteur Coué, pharmacien à Troyes, qui a inventé cette méthode de placebo en vendant ses médicaments et en expliquant à chacun de ses patients et de ses clients, vous allez voir, ça va vous faire du bien, et ça n'est qu'un début, et c'est comme ça que le son se sent mieux. Voilà, je dirais, pour le contexte intellectuel, c'est une cité qui s'est structurée, qui est vraiment une cité...
Est-ce qu'il y a des gens à Marseille, par exemple ?
Pardon ?
Est-ce qu'il aurait inspiré des gens à Marseille ?
Oui, forcément. De toute façon, on est tous au nord de Marseille, donc il se passe forcément quelque chose. Sûrement que le docteur Coué aurait trouvé des médecines parallèles intéressantes pour le cadre général de l'animation de ce magnifique sud. Mais pour revenir à Troyes, si vous voulez, c'est une cité qui, dans sa construction aujourd'hui, rappelle le Moyen-Âge. C'est vraiment une cité médiévale. On a le plus grand secteur sauvegardé d'un seul tenant. On ne le sait que trop peu. D'ailleurs, on n'est peut-être pas bon en communication. Du coup, merci pour votre invitation. D'un seul tenant, des maisons à pans de bois du 16e. La ville s'est structurée, c'était des enchevêtrements, des immeubles très proches, avec des fermes d'avant-corps, avec des charpentes en bois séchées tout à fait remarquables. Elle a été détruite par un incendie en 1524 et elle s'est reconstruite à l'identique, ce qui donne vraiment l'impression de venir dans la compréhension de notre histoire, de ses modes de vie et dans une projection vers l'avenir, parce que c'est un attachement avec ses racines. C'est une ville qui est posée sur le fleuve, sur la Seine. Et donc c'est une ville d'eau pour laquelle on produit beaucoup d'efforts afin de réaménager la présence de l'eau pour améliorer la qualité de vie des habitants. Et c'est une ville qui a aussi un passé industriel extraordinairement fort, qui a eu une période d'opulence remarquable et où l'identité ouvrière se lie au corps aujourd'hui dans ses cheminées, dans ses usines et dans la sociologie même de notre cité.
Nathalie ?
Oui, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la bonneterie et de l'histoire de Troyes à part un musée de la bonneterie, je crois ?
Alors il reste d'abord des ouvriers et des ouvrières par plusieurs milliers qui travaillent pour des entreprises, on peut citer les marques, vous me le permettrez, puisque c'est les sièges sociaux de notre cité. Je pense à Lacoste, je pense aux coques sportives, je pense à Petit Bateau, je pense à toute une série de marques qui ont vraiment guidé la société de consommation des années 60, 70 et 80. Et vous me permettrez un petit coup de chapeau également, parce qu'on doit à ces ouvrières de Lacoste, du coque sportif, de Petit Bateau et de quelques autres ateliers, le fait d'avoir protégé la population troyenne au moment du confinement et du Covid. Et ils ont fabriqué et offert 75 000 masques gratuitement à la ville de Troyes pour les Troyens.
Alors parlez-moi de la famille Baroin et de l'Aube et de la Champagne. C'est une histoire très, très liée, c'est un peu votre fief là-bas.
Oui, enfin, il se trouve que mon père a eu la, avec ma mère d'ailleurs, a eu la bonne idée de me faire naître dans les années 60. On est en 65, ça remonte déjà un petit moment, du côté de Nogent-sur-Seine. Il se trouve que mon père faisait sa préfectorale dans ce département. Il avait été nommé après avoir été commissaire de police. Il avait rendu une mission au général de Gaulle et à Roger Frey, ministre de l'Intérieur. Il avait été l'un des premiers à être nommé au tour extérieur. Il est nommé à Nogent-sur-Seine, donc pas très loin, effectivement, de la porte d'entrée de l'Île-de-France. Et ensuite, il avait été muté à Troyes comme secrétaire général de la préfecture, de telle sorte qu'il est resté presque 10 ans comme représentant de l'État dans ce département. Et donc, j'y suis né, on y a puisé des racines. Plus tard, il a fait une carrière politique locale. Il a été maire et conseiller général de Nogent-sur-Seine. Et puis après son décès, ma mère a pris sa succession pendant un mandat comme conseiller général. Donc il y a effectivement des racines très profondes, très puissantes et un attachement qui est viscéral au fait. C'est ma construction, c'est l'air que j'y ai respiré, ce sont les amis que j'y ai croisés, ce sont les fidélités que j'y ai structurées.
Les souvenirs d'enfance qui vous reviennent. Si je vous demandais deux souvenirs d'enfance forts dans cette région.
Je pense qu'il y en a deux. Le premier, c'est probablement mes premiers pas dans le parc de la sous-préfecture à Nogent-sur-Seine. Et le second serait probablement le matin accompagné dans une petite 4L par ma mère à l'école d'Hydrault au cœur de Troyes.
Ah oui? Pourquoi ouais. Ce moment-là?
Parce que d'abord j'adorais retrouver mes copains. Ouais. Ensuite j'aimais cette petite école où il y avait... à la fois les grands et les petits, il y avait le CP et puis ça se mélangeait ensuite en cours élémentaire. Donc j'avais l'impression d'avoir piqué la balle dans la cour des grands parfois. Et puis c'était pas très loin de la maison, c'était une période heureuse, c'était une famille unie et c'était aussi l'insouciance de l'enfance.
Merci beaucoup François Baroin, vous restez avec nous bien sûr. Nous allons continuer à découvrir la Champagne dans un instant en votre compagnie sur Europe 1.
16h-18h, et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait sur Europe 1, 2 heures de voyage tous les après-midi, sans contraintes, sans frontières, juste pour le plaisir de s'évader. Après le flash de 17h, la Birmanie. Nous partirons en Birmanie, ce pays qui s'est ouvert au monde il n'y a pas si longtemps et dans lequel les habitants ont une relation aux étrangers, encore maintenant, même plusieurs années après l'ouverture, tout à fait particulière, une bienveillance extraordinaire. Je vous dis, je le mets dans la top liste des pays où l'on est tout simplement le plus gentil au monde. On en parlera tout à l'heure. Là, tout de suite, nous sommes en Champagne, une terre de lacs artificiels aussi. On en parle peu, des lacs qui sont destinés à protéger la région parisienne, des crues de la Seine notamment, avec les grands lacs de la Forêt d'Orient ou le lac du Der, qui est le plus grand lac artificiel d'Europe, avec des paysages incroyable. Nous sommes en ligne avec François Baroin, maire de Troyes, amoureux de la région. Est-ce qu'il y a un accent troyen?
On a tous un accent et on ne s'en rend pas compte. Je donne un exemple. Par exemple, il a été dit la bonneterie. On dit plutôt la bonne trie, nous. Vous voyez, on avale peut-être un appétit un peu plus vorace que d'autres. Et donc, on avale quelques lettres. D'accord. Mais il est évidemment moins souligné que dans d'autres régions, même si tout ça est très subjectif et très relatif.
Oui. Et alors, la guéguerre entre Troyes et Reims, ça en est où?
Alors, on est plutôt dans une période de paix. Ça s'entend très bien avec le maire de Reims. C'est une période de pacification assez durable. Maintenant, voilà... Troyes est la capitale de la Champagne. Ici, Reims avec Épernay sont la capitale du Champagne. Donc il y a le poids de l'histoire et il y a le caractère aménagé de la fête.
Ouais. Nathalie ?
Oui, François Baroin, est-ce que vous plongez plutôt dans le lac du Der ou dans la baignoire de Champagne ?
Plutôt le lac du Der.
Bon,
le lac du Der. Même si la baignoire de Champagne, même si la baignoire de Champagne en piscine, c'est quand même très très agréable en fin de journée.
Oui, quand même.
Ah oui, oui.
Vous vous êtes déjà vraiment baigné dans une baignoire de champagne?
Ben, ça existe.
C'est à moi que vous posez la question.
Les deux, je suis vraiment...
Il y avait un personnage qui adorait ça, c'était Édouard VII, prince de Galles, fils de Victoria. Oui, lui, il prenait des bains de champagne, mais c'est une autre histoire, un peu sulfureuse.
Ah bon, ça a
ouais, je sais bien que certains avaient voulu en mettre également dans les fontaines Wallace à Paris, mais ça coûtait un peu cher au bout d'un moment.
Qu'est-ce qui, de cette région, a forgé une part de votre caractère, François Baroin?
Je pense tout. Qu'est-ce qui forge la construction d'un homme, d'une femme, l'air que l'on respire, les paysages. Mmh. Les miens du Nogentais sont des grandes plaines céréalières, parmi les meilleures terres de France et d'Europe, avec ensuite une maison de famille qui se trouve dans le Pays d'Hôte, qui est absolument magnifique, vallonné. Vous avez forêt absolument splendide, avec un peu de résineux, mais beaucoup de chênes, et puis beaucoup de vergers également. Et puis cette plaine de Troyes qui est absolument sublime, parce que quand on arrive sur Troyes, et c'est vraiment à quelques encablures de Paris, je suis absolument convaincu que ce sera une ville très à la mode dans 5-10 ans. Je le dis parce que les habitudes vont changer, les gens vont vouloir un peu sortir de ce grand Paris, et on y trouve une qualité de vie. Et quand vous arrivez sur le haut de la plaine de Mongueux, qui est une terre de champagne, parce qu'il faut pas oublier que l'Aube, dont Troyes est la préfecture, est la deuxième AOC naturellement dans le monde, et évidemment dans la Champagne, vous avez Épernay et Reims, qui sont mythiques, mais une bonne partie de la production des champagnes qui nourrissent les grandes marques que vous connaissez, qui vous sont familières, sont produites dans cette terre de l'Aube. Et cette plaine de Troyes a structuré quelque chose d'assez magnifique. Et plus vous descendez au sud de Troyes, plus vous arrivez dans la partie viticole, vous avez des vallées absolument extraordinaires. Et ensuite, vous arrivez après aux confins de la Bourgogne, un peu la Haute-Marne, et ce sont des paysages très changeants. Et c'est probablement cela. Plus le climat, on est quand même déjà le début de l'Est, et il nous est arrivé d'avoir un office du tourisme qui assurait une promotion autour de moins 22 pendant le mois de janvier.
Alors, est-ce que c'est vrai qu'au fronton de l'hôtel de ville, là où normalement il y a marqué liberté, égalité, fraternité, il y a marqué unité, indivisibilité de la République, liberté, égalité ou la mort ?
Fraternité ou la mort.
Fraternité ou la mort.
Liberté, égalité, fraternité ou la mort. Alors c'est tout à fait vrai, c'est classé. C'est juste au-dessus de la porte d'entrée, c'est-à-dire clairement vous savez où mettez les pieds,
oui.
Vous savez où vous êtes, c'est-à-dire qu'on est frères, on s'entend bien, ou alors c'est un raccourci de l'histoire, comme ça a été évoqué avec la tête de Danton, et c'est lié à la période de la terreur, qui était la contre-révolution et la prise de pouvoir par les plus ultra. Qui a d'ailleurs valu un sort funeste effectivement à Danton, mais pas que. L'un de mes antéprédécesseurs, juste avant cette période de la terreur, avait été écartelé en ville, parce qu'il y avait une famine, il avait fait venir de la farine d'Angleterre, et puis elle était plus ou moins avariée, les gens ont eu de la dysenterie, il y a eu beaucoup de morts. Donc voilà, on sait accueillir, mais on sait également sanctionner. Fraternité ou la mort, c'est vraiment l'apologie de la terreur de 1793.
Bon, est-ce que du coup vous vous tenez à carreau par rapport à vos administrés?
J'essaye surtout de les accompagner avec de la nourriture de qualité, bio et pas avariée.
Très bien. Merci beaucoup François Baroin de nous avoir accordé un peu de votre temps.
Merci,
pour nous parler
merci,
de votre
merci de m'avoir invité, c'était une joie.
Avec plaisir. À bientôt, au revoir. Dans
au revoir.
Quelques instants, nous allons retrouver les histoires savoureuses de Nathalie Elal, les histoires qui se nichent dans l'histoire. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Philippe Googler.
Tous les jours sur Europe 1, entre 16h et 18h, un grand voyage. Tout à l'heure, nous partirons en Birmanie ou au Myanmar, on peut dire les deux maintenant. Nous découvrirons les Bouddhas couverts d'or et également le Slow Train, que peu de gens connaissent, mais c'est le train le plus lent du monde. Il est là-bas, en Birmanie. Il faut aller le chercher, il est bien caché, mais il est incroyable. Là, pour l'instant, nous sommes en Champagne jusqu'à 17h. Et c'est le moment où Nathalie nous raconte des histoires croustillantes. Alors évidemment, Nathalie, vous êtes dans les bulles.
Bah oui, parce que le champagne, en effet, c'est synonyme de légèreté, d'histoires drôles et puis sulfureuses,
bah
pourquoi
oui.
pas Oui, alors vous aurez reconnu évidemment la musique du célébrissime Goldfinger. Vous allez voir, je connais bien mes classiques, hein, ouais. Philippe. Par exemple, tenez cette petite phrase du grand Sean Connery. Ma chère petite, il y a des choses qui ne se font pas, telles que boire du Dom Pérignon 55 à une température au-dessus de 3 degrés. C'est aussi malsain que d'écouter les Beatles sans boule qui est. Et puis une autre...
Ce qui ne veut pas dire grand-chose, en vrai.
Bah, ça veut dire qu'il n'aimait pas trop les Beatles, visiblement. Puis une autre parole d'expert. Alors là, on est avec Winston Churchill, le premier ministre britannique, qui était fou de champagne, et pas que de champagne, hein, j'en profite pour le dire. Eh bien, il avait baptisé l'avenue de Champagne à Épernay, qui est d'ailleurs classée au patrimoine mondial de l'UNESCO à cause de ses façades magnifiques. Il l'avait baptisée l'avenue la plus buvable du monde. Sans transition, Philippe, savez-vous pourquoi les bouteilles de Crystal Roederer ont un fond plat?
Ah ben non, je sais pas.
Eh bien... Chaque année, Alexandre II, tsar de Russie, entre 1855 et 1880, il commande 60% de la production de la maison de champagne Louis Roederer. Et puis un jour, il va commander un champagne de prestige, mais avec deux exigences bien particulières. Il veut ce champagne dans une bouteille en cristal de Baccarat, mais surtout avec un fond plat. Et ça n'est pas un caprice, c'est parce que, en fait, au cours de son règne, il a subi beaucoup de tentatives d'attentats. Donc il veut à la fois une bouteille de champagne transparente pour vérifier qu'aucun poison n'y soit versé, et puis surtout un fond plat pour éviter de cacher une bombe ou un explosif dans ce qu'on appelle la piqûre. Vous savez, c'est la cavité dans le fond de la bouteille. Donc c'est la naissance du Crystal Roederer champagne de légende, ce qui n'empêchera pas le pauvre Alexandre II de rendre l'âme dans un attentat en 1881.
Ah, dis donc, c'est dingue cette histoire.
Les bouteilles sont toujours à fond plat ou pas?
Pour cette cuvée prestige. Crystal Roederer, absolument.
Cela dit, ça prouve que si on avait inventé un poison transparent, on aurait pu atteindre le tsar.
Oui, enfin, ils n'ont peut-être pas réussi en temps en heure.
C'est dingue. Vous avez d'autres histoires comme ça liées au champagne?
Oui, alors par exemple, est-ce que vous saviez que la ville de Reims peut être considérée comme l'une des capitales de l'aviation naissante à cause du champagne? Oui, alors il faut bien vous dire que presque tous les dirigeants des grandes maisons de champagne étaient très attentifs aux premiers balbutiements des nouveaux modes de transport, dont l'aviation. Et donc en 1909, sur l'instigation du marquis de Polignac, qui est entré par mariage, par le biais des alliances, dans la famille Pommery, va se tenir avec le soutien de la plupart des grandes marques, la première grande semaine de l'aviation en Champagne. Alors, il y a le président de la République, Armand Falière, il y a vraiment l'élite de l'aviation mondiale qui est conviée, c'est un vrai succès. Et puis, ça récidive l'année suivante, mais il y a des accidents. Et bien que le record des 100 km/h soit établi à Reims, ces tournois d'oiseaux, comme on disait, n'auront plus lieu là-bas.
Ah, d'accord. Et alors, la tradition des bateaux, vous savez qu'on baptise au Champagne avant qu'ils partent, ça se fait toujours d'ailleurs. Vous avez quelque chose à raconter là-dessus?
Oui. Ah, le petit baigneur, le petit baigneur. Vous savez que depuis le XVIIIe siècle, on bénit les bateaux nouvellement construits. C'est un rituel français, mais qui a été rapidement adopté par les Britanniques. Il y a même un proverbe anglais qui dit « Un navire qui n'a pas goûté au vin goûtera au sang ». Alors, c'est malheureusement vrai. Ben oui, c'est malheureusement vrai dans le cas du Titanic, parce qu'il paraîtrait, selon la légende, que la bouteille de champagne a refusé de se briser en heurtant la coque.
Du Titanic?
Oui, le Titanic, oui. Par contre, il y a un bateau français. Alors, en revanche, il a été vraiment super bien baptisé, celui-là. C'est le paquebot Île-de-France. Un chef-d'œuvre de l'art déco qui prend la mer pour la première fois en juin 1927. Il s'en va pour relier le Havre à New York. Et lors de la traversée inaugurale, les 1550 passagers ont siphonné, tenez-vous bien, 20 000 bouteilles de champagne, ce qui a fait que ce bateau a été surnommé le plus beau seau à champagne du monde.
Et ça fait presque 20 bouteilles par personne.
Oui. Mais en fait, on est en pleine période de la prohibition aux États-Unis, donc les passagers américains s'en donnent à cœur joie sur les transatlantiques français, donc tout est normal.
Ah, dis donc. Incroyable vos histoires. Mais où est-ce que vous allez chercher tout ça?
Je bosse les week-ends.
C'est dingue. Et une coutume troyenne du pays à raconter peut-être?
Ah oui, là on est dans... J'aime bien les musiques médiévales. On est dans un registre un petit peu différent. Je vais vous parler des foires de Champagne. Ouais. C'est pas la foire à Champagne, c'est la foire de la région de Champagne. Alors imaginez-vous, la foire de Paris avec ses milliers d'exposants, mais à ciel ouvert et de façon quasi ininterrompue pendant une année entière, avec notamment
c'est une
deux...
foire permanente.
Une foire permanente, avec notamment deux événements, la foire chaude de la Saint-Jean, c'est-à-dire le 24 juin, et la foire froide de la Saint-Rémy, le 15 janvier, c'est-à-dire été comme hiver de la foire.
Je suis sûr que vous préférez la chaude.
Écoutez Philippe, on n'est que lundi, je vous en prie, attendez vendredi. Bon alors ces foires, trêve de plaisanterie, elles sont célèbres, absolument célèbres dans le monde entier, dès le Moyen-Âge, grâce à un homme, le comte Thibaud II de Champagne, qui va attirer toute l'Europe en instituant ce qui s'appelle à l'époque le conduit des foires. Qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire la sécurité pour les marchands qui vont à la foire ou qui en reviennent, parce que dites-vous bien qu'à l'époque, on se fait vite dépouiller la route par des bandits de grand chemin. Donc ça devient une institution. Imaginez une cohue de Flamands, d'Italiens, d'Espagnols, de Grecs, de Turcs, de Provençaux qui se rendent à Troyes en caravane pour vendre et acheter des marchandises qui remplissent les halles. Il paraît que même l'Asie et l'Afrique ont leurs représentants sur place. C'est vraiment extraordinaire, y compris pour les échanges internationaux entre commerçants.
Merci beaucoup Nathalie pour toutes ces histoires. On s'en lasse pas. Ça doit être sympa d'être un enfant de Nathalie. Le soir, elle vient vous raconter des histoires.
Non, je lui dis dégage, c'est pas le moment.
Vous êtes dur. Dans un instant sur Europe 1. Alors d'habitude, c'est qu'est-ce qu'on boit avec ça, mais là, c'est plutôt qu'est-ce qu'on mange avec ça. On fera le point sur le et la champagne avec Emmanuel Jarry dans un tout petit instant sur Europe 1.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait tout à l'heure après le flash de 17h, la Birmanie, tout de suite la Champagne, on est gâtés aujourd'hui, de très belles destinations. Alors Emmanuel Jarry, vous qui êtes une fine gastronome, quand on vous parle du champagne, vous dites bon, il y en a marre, c'est surfait, toujours et encore, ou alors c'est vraiment le top pour vous?
Ah moi j'adore les bulles, j'adore surtout les bulles fines et élégantes, parce que vous savez les vins effervescents on en trouve dans plein de régions, mais le champagne est unique, et puis c'est vrai que le champagne c'est vraiment la France, comme la Tour Eiffel ou Charles Trenet, quoi. Vraiment c'est quand on partout dans le monde, on dit champagne, c'est la France. Donc,
mais est-ce que c'est vraiment le meilleur des vins effervescents?
Pour moi, les grands champagnes à la bulle fine et élégante, je dis toujours ça, oui.
Ah ouais.
Ouais, c'est un grand plaisir. Oui, moi je trouve. Oui. Et donc, en fait, justement, parce que c'est une boisson, un vin unique, ça ne doit pas se boire n'importe comment. Et sur le service du champagne, il y a un désaccord entre les scientifiques et puis les règles de savoir-vivre.
Ah bon ?
Oui, alors en fait, pour être bien élevé, on ne doit jamais incliner son verre, c'est très vulgaire.
Incliner son verre quand on sert
voilà,
avec la bouteille ?
Voilà, au moment du service, oui.
Mais faut... si vous inclinez pas, ça fait plein de mousse.
Eh bien, juste, voilà, exactement. Les scientifiques disent qu'il faut l'incliner pour limiter la production de mousse et donc de gaz carbonique, parce que c'est ce gaz qui fait les bulles, qui sont si important dans le plaisir du champagne.
Ah oui.
Et en fait, il y aurait 150 000 bulles en plus dans un verre incliné que dans un verre qui reste droit au moment du service.
Donc il faut incliner.
Donc il faut incliner, mais ça dépend si, vous savez, dans les salons dans les salons mondains à Reims ou ailleurs, ça dépend si vous voulez être bien vu ou si vous voulez prendre du plaisir. Moi, j'opte pour le plaisir et surtout, par exemple, pour les vieux champagnes où les bulles ont un peu disparu, si vous n'inclinez pas, bon, bah, il n'y a plus de bulles. Et
mais attendez, vous êtes en train de dire que c'est mal vu, c'est pas chic d'incliner son verre pour servir du champagne.
Ouais, dans les règles de savoir-vivre. Mais moi, j'incline.
Ah bon ?
Je respecte
étonné.
Le produit. Et donc voilà.
Je pense que... Et alors, on sert dans une coupe ou dans une flûte ?
Non. Alors, ça dépend ce que vous voulez faire de votre champagne. Si vous voulez faire la fête, la coupe, c'est pas mal. Parce que vous savez, on peut faire des grandes pyramides. On les empile les unes sur les autres et puis on fait couler le champagne. Voilà, c'est pas mal.
Mais je trouve qu'on sent moins le goût du champagne dans les coupes.
Exactement, parce qu'en fait, la coupe étant large, il n'y a pas une concentration des arômes et au nez on sent pas. Et on dit que sa forme aurait été moulée sur le sein de la Pompadour, vous savez, la coupe. Donc c'était la maîtresse de Louis XV. Je me suis dit que ça, c'est quelque chose qui plairait à Nathalie comme information.
Oui, alors je la connaissais, mais il y a aussi une alternative à la flûte ou à la coupe. Il y a le pomponne. Est-ce que vous connaissez le pomponne ?
Non.
Qu'on doit garder comme
c'est
ça.
C'est une flûte en fait en forme de corne, mais sans pied.
Ouais.
Donc ça permettait de donner son verre à l'époque, au 18e, à l'époque aussi de la Pompadour, à un laquais qu'il plaçait dans un rafraîchissoir avec de la glace pilée, parce que le champagne se dégustait avec de la glace pilée, toujours.
Est-ce qu'on pouvait le poser, parce qu'il y a des verres qu'on...
On le posait dans le rafraîchissoir, c'était le laquais qui s'en chargeait, mais sinon dans la coupe vous aviez la glace pilée et on versait le champagne dessus, on mangeait la glace à la petite cuillère.
Ah bah ça je connaissais pas.
On apprend des tas de trucs.
Parce qu'il y a des flûtes à champagne qu'on ne peut pas poser, donc on doit toujours les tenir à la main, comme ça on boit.
Ça on le fait remplir tout le temps d'ailleurs.
Et on tient sa flûte par le
pied.
Par le pied.
Pour pas préchauffer pour garder à bonne température. Donc voilà, la coupe, c'est bien pour la fête. Pour la dégustation, la flûte, c'est un peu mieux parce que ça permet une remontée des bulles à la verticale. Donc c'est assez joli à voir, garder la fraîcheur. Mais en fait, le mieux, c'est quand même le verre à vin. Parce qu'en fait, il se referme un petit peu en haut. Et alors, les perfectionnistes disent, parce qu'il y a vraiment des spécialistes, que le verre idéal doit faire 9 cm de hauteur sans le pied, un diamètre d'ouverture de 6,25 cm et un contenant au plus large de 7,4 cm. Ça me fait toujours rire, ça, parce qu'en fait, il y a des gens qui sont vraiment qui rigolent pas avec le champagne.
Et ça, c'est le verre parfait pour boire le champagne.
Ça, c'est le verre parfait. Et alors, justement, là, vous pouvez voir, sentir, goûter, et même plus, car le champagne fait appel aux 5 sens, y compris au toucher.
Le toucher.
Oui, tout à fait. Alors écoutez ce que dit Christophe Lavelle, qui est chercheur au CNRS, spécialiste de l'alimentation et qui nous décrit les différentes étapes de la dégustation du champagne.
On a d'abord le fantastique ballet visuel des bulles qui montent vers la surface et qui éclatent. On a ce côté auditif justement de cet éclatement que l'on perçoit, ce pétillement que l'on perçoit à l'oreille. Et après derrière, lors de la dégustation, on va bien sûr avoir tous les sens de l'odorat qui va se mettre en branle et puis la saveur. On va détecter tout ce qui est acidité, sucrosité du champagne et aussi le côté tactile du fait qu'on a des bulles qui éclatent en bouche et qui vont picoter finalement pour des raisons très physiques. C'est ce qui correspond au toucher.
Ouais, toucher, je suis un petit peu sceptique. Moi, je trouve ça plutôt gustatif que
non, le goût, tactile. Ça serait l'acidité, l'amertume et tout ça. Et là, donc, c'est la sensation, les vins tranquilles, comme on dit, qui n'ont pas de bulles. Et ben, il n'y a pas cette sensation de toucher. Enfin, en tout cas, voilà, les cinq sens. Quand on entend ça, on se dit, on va boire le champagne un peu différemment. Et alors, surtout, le manger.
Avec quoi on le boit, voilà, avec quoi on le mange.
Oui, parce que quand même, ce qui est très important, souvent, on boit le champagne à l'apéritif. Ou moi, je trouve qu'il faut faire des repas entiers avec le champagne. Ça va très bien avec les fromages, ça, on le sait pas. Ça va
avec
très bien.
Fromage,
oui, exactement.
J'ai jamais pensé à essayer.
Les champenois le recommandent sur place.
Tout à fait. Ça va bien avec, par exemple, il y a des belles productions de volailles en Champagne, le jambon de Reims. Il y a un désaccord majeur, c'est le chocolat. Ça, c'est pas possible. Avec l'amertume du chocolat, souvent, ça marche pas. Et puis, il y a le biscuit rose de Reims, qui est un des rares biscuits qui est cuit deux fois, d'où le nom biscuit, et qu'on trempe. Alors, ça, c'est considéré un peu comme désuet, un peu ringard, mais moi, je m'en fiche. Je trouve que ce qui est important, c'est l'histoire, c'est le plaisir. Donc, on le trempe dans le champagne parce que ce qui est bien, c'est qu'il ne se délite pas. Et les rois, au moment du sacre, quand ils venaient se faire sacrer à Reims, ils le trempaient dans la coupe ou dans la flûte. Et si le biscuit ne se délitait pas, eh bien, ça voulait dire que leur règne, c'était bon signe pour leur règne.
Et ça, c'est le biscuit rose de Reims.
Oui, le biscuit rose de Reims.
Ça a quelque chose avec le boudoir.
Oui, c'est un peu de la même famille. Voilà, c'est ça.
Plus dur.
Mais il est dur. Et c'est pour ça qu'on peut le tremper. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne se fait plus trop. Et surtout de boire du champagne au dessert. Donc.
Bah, c'est vrai que c'est un peu lourd au dessert. On a plus
Moi,
envie.
J'aime beaucoup aussi. Bon, j'aime bien tout ce qui est un peu rétro.
J'aime bien. J'ai l'impression que c'est champagne 24-24.
Tous les prêteurs sont bons pour
voir c'est l'impression que ça donne.
À suivre sur Europe 1, tous les bons tuyaux de Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet pour découvrir la champagne. Et tout de suite, on va respirer un peu. Avec un peu de publicité.
Europe 1, sans rendez-vous. Anne Le Gall.
Le dossier du jour sera consacré à notre mémoire. Elle nous permet de nous situer dans le temps, d'avoir des projets. Comment la préserver le plus longtemps possible? Le docteur Stéphane Eppelbaum, neurologue et chercheur à l'Institut du cerveau, viendra en studio nous en parler.
Sans rendez-vous.
On se retrouve donc demain à 15h sur Europe 1.
Carrefour. Chez Carrefour, être partenaire de votre rentrée, c'est déjà vous aider à la préparer. Alors rendez-vous sur marentrée.carrefour.fr. Prenez en photo votre liste de fournitures avec votre smartphone, retrouvez-la directement dans votre panier et commandez en quelques clics. Puis faites-vous livrer chez vous, en point relais ou en magasin. Avec marentrée.carrefour.fr, les courses de rentrée sont un jeu d'enfant. Carrefour.
Modalité magasin participant et point relais sur marentrée.carrefour.fr.
Et vous, qu'attendez-vous pour aller chez Renault?
Plus que quelques jours pour bénéficier de la prime à la conversion. Alors n'attendez plus pour profiter de nouvelles Renault Clio à partir de 99€ par mois seulement et avec EasyPack, soit l'entretien, la garantie et l'assistance inclus pendant 4 ans. L'idéal pour profiter de l'été en toute sérénité, à condition de se dépêcher.
Pour nouvelle Clio Life SE 65, 40 000 km avec un premier loyer de 3 000€ ramené à 0€ après déduction de la prime à la conversion, sous condition d'éligibilité à la prime jusqu'au 31 juillet si accordiaque, voir Renault.fr.
Une chanson écrite par Alain Souchon et Édouard Baer qui s'intitule Presque sur Europe 1.
Europe 1, Philippe Googler.
Et nous voyageons avec cette fois-ci Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet. Alors Jean-Bernard, la Champagne. Bon, on va visiter les vignobles, évidemment, on dit toujours ça, je vais visiter les vignobles, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour en profiter ?
Écoutez, l'idéal, c'est d'emprunter ce qu'on appelle la route touristique du Champagne. C'est une route qui est entièrement balisée, elle serpente au milieu des vignobles, sur des coteaux, elle passe par les plus beaux villages de Champagne et vous offre plein de vues panoramiques. Et justement, il y a plein d'étapes qui sont prévues le long de cette route. C'est ponctué d'arrêts dégustation.
Donc il faut partir avec un chauffeur alors, parce que si on fait des arrêts dégustation...
Il faut être plusieurs pour se relayer au volant, bien entendu. Après, vous n'êtes pas obligé de boire la dégustation. On recrache normalement lors d'une dégustation.
Cracher du champagne.
Bah, oui, tant pis, on n'a pas le choix. Et vous pourrez justement rencontrer, c'est ce que j'ai fait, vous pourrez rencontrer ces fameux vignerons. Et ce qui est génial quand on les écoute, c'est la passion qui se dégage. C'est souvent des affaires familiales pour certains depuis 5 ou 6 générations, voire plus. Et ils ont toujours cette flamme au fond de leur cœur, dans leur trip. Donc c'est un moment de partage aussi, ces fameuses... Il y a l'aspect dégustation, achat, etc. Il y a l'aspect rencontre.
C'est vrai qu'ils aiment bien raconter.
Ah, ils adorent ça.
C'est
ils
des conteurs. Vous avez un tronçon préféré ?
Alors, celui que j'aime beaucoup sur cette route touristique, c'est la Côte des Blancs. C'est le berceau du Chardonnay, le fameux cépage qui a essaimé dans le monde entier, le fameux Chardonnay. C'est entre Épernay, au nord, et Vertu. C'est un parcours nord-sud qui fait à peu près 50 km qu'on peut faire à la demi-journée. C'est très facile. Alors, il faut dire que déjà à Épernay, la ville en elle-même, on se met dans l'ambiance de cette route touristique parce que, vous l'avez dit Nathalie, la prestigieuse avenue de Champagne, il y a toutes les grandes maisons qui flanquent cette très belle avenue, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, les Mouettes et Chandon, les deux Castellanes, les deux Venoges. C'est par ici que ça se passe, c'est un petit peu les Champs-Élysées de la Champagne. Justement Nathalie, le mot Champagne, décidément, ça vous inspire.
Ah oui, une petite devinette, est-ce que vous savez pourquoi le Champagne va égayer les cœurs, les esprits, enfin tout. Pourquoi ça rend tout guilleret ? Est-ce que vous le savez ?
C'est de l'alcool.
Parce que ça saoule.
Non, parce qu'en fait, le champagne contient une molécule qui s'appelle la bêta-carboline et qui compte parmi les meilleurs freins des circuits inhibiteurs du cerveau.
Ah bon ?
Donc vous êtes complètement désinhibé.
Plus que les autres vins ?
Oui, oui. Ah. Plus que les autres vins.
Ah ouais.
Ah bon.
Bon. Eh ben écoutez,
cette Nathalie, elle nous sidère à chaque fois. Et alors, si on veut découvrir les vignobles d'une manière peut-être un peu différente, un peu rigolote ?
Eh ben, nos fameux vignerons qu'on rencontre, ben, ils rivalisent d'imagination depuis plusieurs années. Ils ont mis en place des tas de prestations un petit peu particulières. Alors, plutôt que de rester dans sa voiture, il y a d'autres façons de découvrir maintenant. Il y a les vélos électriques, mon cher Philippe, hein, si vous voulez vous balader dans les vignobles, vélos électriques, les VTT. Il y a des balades en van qui sont proposées, des balades en estafette. Alors, vous amenez votre petite table de pique-nique, vous vous arrêtez au milieu d'un vignoble et vous dégustez en ayant cette vue panoramique sur les vignobles. Il y a même maintenant des cours de yoga qui sont proposés dans les vignobles champenois. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est assez exceptionnel. À Épernay, il y a une expérience qu'il ne faut pas louper. Toujours Épernay, j'adore cette ville. Il y a un ballon qui est suspendu. Alors, c'est pas une montgolfière, c'est un ballon attaché à un câble. Et là, vous avez une vue à 360 degrés au coucher du soleil sur tout le vignoble champenois. C'est très romantique, Nathalie.
Ouais, c'est chouette. Oui, Nathalie, vous voulez rajouter quelque chose ?
Il me parle en parlant de romantisme, j'adore ça, tout va bien.
À part Épernay et Reims, est-ce qu'il y a d'autres villes incontournables en Champagne ?
J'allais dire la ville de Troyes, c'est une ville que j'adore. Et c'est vrai que ce qu'a dit François Baroin, j'ai vraiment été en totale connexion avec ce qu'il a dit. Le côté médiéval, ces maisons à pans de bois colorées. Et il y a une anecdote quand même qu'il n'a pas précisé, je veux quand même vous le dire. Vous savez que les contours du centre-ville de Troyes, ils ont une forme très particulière. Ils ont la forme d'un bouchon de champagne.
Oui, c'est
ce qu'on dit sur place.
C'est vrai,
voilà.
C'est vrai.
Donc ça fait vraiment, c'est une atmosphère absolument exceptionnelle. Et puis ce que j'aime bien à Troyes, en me baladant, c'est que le centre est piétonnier aussi. Donc vous n'avez pas de voiture, vous n'êtes pas du tout dérangé. Mmh. Vous êtes complètement imprégné dans cette ambiance médiévale.
Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez de Châlons en Champagne ?
Ah, là vous touchez une corde sensible. Mais oui, justement. Je sais que vous aimez aussi les villes sous-estimées, mon cher Philippe.
Ben oui, souvent,
et celle-là,
on y fait des belles rencontres.
Voilà. Et ben, c'est exactement ça. Et Châlons en Champagne, pour moi, c'est la ville la plus sous-estimée de cette région-là. Parce que c'est une ville qui est parcourue de canaux. Il y a deux monuments qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et surtout, ce que je recommande, je l'ai testé, cette prestation-là. La nuit, il y a un spectacle original et magique qu'on appelle Métamorphose. C'est la ville qui a mis ça sur place, qui a mis ça en place. C'est une balade en barque, donc nocturne, et qui longe donc ces fameux canaux. Et tous les monuments que l'on voit et les ponts, soudain, s'illuminent avec ce qu'on appelle des scénographies de vidéomorphing. C'est une... Alors, vous avez des espèces de... Comment dire ? D'animation, comme dans un jeu vidéo en 3D. Vous avez des dragons, vous avez des scènes de vie qui sont sur les monuments et sur les ponts. Et ça donne une coloration très particulière.
Et ça surgit au milieu de la nuit,
mais oui, au milieu de la nuit. Voilà. C'est
génial,
une espèce de ballet féerique
génial.
En plein cœur de Châlons en Champagne. Vous voyez, pour une ville endormie, C'est une ville qui est en fait très créative, mon cher Philippe.
Et c'est en ce moment, c'est tout l'été.
Oui, c'est tout l'été, tous les jours. Il y a plusieurs balades par jour, par nuit plutôt. Il faut s'inscrire auprès de l'office de tourisme. Mais franchement, ça ne pas manquer parce que vous allez voir la ville de Chalon avec des yeux complètement différents.
Alors, si on oublie les vignobles et les villes, qu'on veut un peu de chlorophylle, un peu d'air.
Vous savez, en 2019, c'est passé, comme je vous dis, c'est une région qui bouge. En 2019, un parc national le plus récent de France s'est créé. C'est le parc national des forêts, qui lui se trouve dans un espace encore plus isolé de Champagne. C'est tout au sud de la région, à la frontière avec la Bourgogne, dans le secteur du plateau de Langres, qui est assez, lui aussi assez sous-estimé.
Et très froid l'hiver.
Il y a des forêts absolument magnifiques, des randonnées absolument incroyables à faire, des paysages tout en douceur comme vous les aimez, Philippe. Et dans cette forêt, on peut croiser des cerfs, des chevreuils, des renards et parfois, avec un peu de chance, des chats sauvages.
Et alors, pour ceux qui aiment l'eau, on dit rarement « je vais aller me baigner en Champagne ».
Eh bien, on devrait, parce que vous avez parlé du lac du Der, le fameux lac du Der. C'est un lac, alors bien sûr, qui est réputé pour l'observation des oiseaux et surtout... Mon cher Philippe, les fameuses grues cendrées. À partir du mois de septembre-octobre.
Jean-Bernard, il faut que vous nous avouiez les choses. Qu'est-ce que vous avez avec les oiseaux? Il n'y a pas une région au monde où vous ne dites pas qu'il faut voir les oiseaux. Qu'est-ce qui se passe?
Vous allez comprendre si vous êtes au lac du Der. À partir d'octobre, elles viennent par centaines. On vient pour ça du monde entier les voir. Il y en a des centaines de milliers. Elles volent en V et on les voit à quelques mètres. Donc c'est vraiment un spectacle à part entière. Elles font un cri absolument incroyable. Je crois que c'est celui qu'on entend. Et c'est un must pour les passionnés de nature.
Ah bon. Allez, pour une petite dernière, juste pour la route, un petit village que vous nous conseillez, que vous adorez.
Ah, celui-là, c'est un coup de cœur absolu. C'est une pépite, ça s'appelle Les Rissets. C'est dans la Côte des Barres, dans l'Aube, au sud de la région champenoise. C'est très pittoresque. C'est la seule commune viticole de Champagne qui possède les trois AOC, Champagne, Coteau Champenois et Rosé des Rissets. Et ce fameux Rosé des Rissets, c'était le vin favori du roi Soleil, mon cher Philippe.
Super, merci beaucoup Jean-Bernard. On a toujours envie de partir avec vous, sauf qu'on se dit, on va être obligé de passer 2 heures à essayer de voir des oiseaux. Du coup, on hésite. Merci beaucoup Jean-Bernard. Après le flash de 17h tout à l'heure, nous allons faire un très très grand voyage, un périple extraordinaire en Birmanie, un pays qui, vous le savez, est resté très longtemps fermé et qui pourtant recèle des trésors exceptionnels. Tout à l'heure, après les infos de 17h sur Europe 1. Et si on partait sur Europe 1, c'est l'été, vous savez que c'est le moment de lâcher prise. Et je vous emmène comme ça tous les jours aux quatre coins de la planète avec tous mes petits camarades, sans aucune contrainte. On décolle maintenant.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Je vous emmène aujourd'hui dans un pays qui fut longtemps l'un des plus fermés au monde. Un pays qui s'est ouvert il y a quelques années et qui recèle des trésors incomparables. Des villages entiers qui flottent au milieu d'un lac. Un endroit qui s'appelle Bagan, où vous avez 2000 temples, 2000 répartis sur une immense plaine. C'est un spectacle féerique. Vous avez le fleuve Irrawaddy qui est mythique. Bref, c'est un immense voyage. Je vous emmène aujourd'hui en Birmanie. L'histoire que j'ai vécue se passe à Mandalay. C'est la deuxième ville de Birmanie, qu'on doit appeler en fait aujourd'hui le Myanmar. Et le personnage le plus célèbre de Mandalay, c'est le Bouddha Mahamuni. C'est une imposante statue de Bouddha qui fait 4 mètres de haut. Certains disent qu'il aurait 2000 ans, que la statue est vieille de 2000 ans. C'est une des plus anciennes figures de Bouddha de toute l'Asie du Sud-Est. Et donc vous avez des milliers de pèlerins qui viennent honorer ce Bouddha. Et qu'est-ce qu'ils offrent pour le vénérer? Eh bien, ils lui offrent de l'or. Petite feuille d'or très mince, mais vraiment très mince, que vous achetez dans les échoppes aux alentours. C'est tellement mince que ça ne vaut pas une fortune, ça coûte pas plus de 5 dollars. Mais pour beaucoup de pèlerins là-bas, c'est déjà une grosse somme. Et ces feuilles d'or, elles sont fabriquées pour beaucoup à Mandalay, dans la même ville. Dans des endroits qu'on reconnaît à ce son. Là, ce que vous entendez, c'est une fabrique avec des dizaines de jeunes gaillards musclés, alignés, qui tapent avec des gros marteaux en bois et qui tapent à la main pour amincir des feuilles d'or. Ils tapent toute la journée, pendant des heures, sur des feuilles d'or glissées entre deux morceaux de cuir. Donc il tape encore. C'est un métier qui paraît très dur, mais qui est très bien considéré là-bas,
car il est essentiel à la dévotion pour Bouddha. Donc je suis allé demander à un des contremaîtres pourquoi il faisait ça à la main. Et il me dit, ben voilà, tu vas voir, je te tends une feuille d'or faite par une machine japonaise. Agite-la près de ton oreille, tu vas voir. Quand je le fais, elle fait un très 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 léger bruit métallique. Et maintenant, voilà une de nos feuilles. Et là, j'essaye de prendre la feuille d'or, mais c'est impossible de l'agiter, car elle est tellement fine, bien plus fine que la japonaise, qu'elle se dissout entre mes doigts. C'est juste l'état avant la poudre. La feuille fait 3 microns d'épaisseur, c'est-à-dire 0,003 mm. D'ailleurs, c'est tellement fin que le contremaître me propose de goûter, de faire fondre l'or sur ma langue en disant que c'est très bon pour le cœur. J'avoue qu'on ne fait pas ça tous les jours. Donc, je goûte et c'est tellement fin que tu n'auras pas beaucoup de goût parce qu'on ne sent pas grand-chose. Mais je me dis qu'avec l'or que je viens de manger, au moins, j'aurais pris un peu de valeur.
Nyama, ili, diladao, nanditao.
Alors, je décide d'aller au temple du Bouddha Mahamuni et j'assiste donc à ce rituel étonnant où vous avez des centaines de pèlerins qui, chacun leur tour, patiemment attendent pour déposer un petit feuillet d'or. C'est un rituel millénaire et je découvre quelque chose de spectaculaire. Ça fait tellement longtemps que les pèlerins viennent déposer sur toute la statue de l'or qu'elle est devenue épaisse, qu'elle a des grosses mains boursouflées d'or. Donc ça lui fait un look un peu étrange. Et on raconte qu'aujourd'hui, le Bouddha Mahamuni serait couvert de plus de 90 tonnes d'or.
»16h-18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Et dans quelques instants sur Europe 1, nous partons encore plus profondément en Birmanie.
16h-18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Et si on partait tous les jours un grand voyage ? Nous sommes avec Nathalie Elal.
Oui, présent.
Nous sommes avec Emmanuel Jarry.
Prêt pour le décollage.
Et avec Jean-Bernard Carrier.
Toujours prêt pour le décollage aussi,
toujours
bien
sûr. Toujours partant, je sais. Et la Birmanie, pouvez-nous nous préciser un petit peu ? C'est un peu flou dans les esprits. Où est-ce que c'est la Birmanie ?
Ouais, alors, Asie du Sud-Est, ouais. Résolument. Le plus grand voisin, c'est la Thaïlande. Donc, ouais. C'est juste à côté de la Thaïlande, c'est à l'ouest de la Thaïlande, un pays qui fait un petit peu plus grand que la France en superficie, pour ouais. Donner une petite idée, mais surtout très allongé. Il se termine par une immense péninsule au sud. Ça fait à peu près du nord au sud 2000 km, pour vous donner une petite idée. Traversé par un très grand fleuve, vous l'avez dit, l'Irrawaddy, 2000 km, qui est vraiment la colonne vertébrale ouais. De ce pays.
Un fleuve mythique. La descente de l'Irrawaddy, c'est quelque
c'est
chose.
Une très belle expérience à faire.
Nathalie, un petit mot sur la Birmanie ?
Oui, vous avez parlé, Philippe, de la feuille d'or. Alors moi, je voulais vous parler du rubis parce que c'est une richesse très importante de la Birmanie, notamment 90% des rubis mondiaux en proviennent, et notamment le rubis sang de pigeon, qui est vraiment.
Sang de pigeon ?
Oui, de la couleur du sang de pigeon, c'est-à-dire un rouge franc avec une petite pointe de bleu très recherchée par les gémologues qui vaut des fortunes au-dessus d'un carat. Il est extrait là-bas dans des conditions pas toujours terribles, faut bien le dire, mais c'est la richesse locale.
Ouais. Bruno Boulier, vous êtes français installé entre la Birmanie et la Thaïlande depuis 12 ans, je crois. Vous êtes propriétaire d'un hôtel à côté de Mandalay qui s'appelle le Mingun River Lodge. Bonjour Bruno, vous êtes en direct depuis là-bas.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bonjour
Bruno.
Il est quelle heure en Birmanie ?
Bonjour. Alors ici, il est 21h45.
Ah, ça va, on vous fait pas coucher trop tard, c'est raisonnable.
Moi, non, ça va.
Moi, ce que j'aime, je sais pas si c'est ce qui vous a surpris aussi au début, quand on arrive en Birmanie, le premier choc, si j'ose dire, c'est plus qu'une surprise, c'est un choc, c'est les visages des Birmans qui sont vraiment très particuliers, toujours très souriants et surtout couverts de cette espèce de poudre pour beaucoup de Birmans, une poudre soit dorée, soit blanche. Qu'est-ce que c'est exactement ? Les gens continuent à s'en mettre de ça ?
Alors, ça s'appelle, oui, vous avez raison, ça s'appelle le tanaka. Ça fait véritablement partie de l'identité birmane. C'est quelque chose qui est resté à l'intérieur du pays, qui existait probablement sur les pays adjacents, mais qui est resté jusqu'au jour d'aujourd'hui en Birmanie. Alors, qu'est-ce que c'est que le tanaka? Le tanaka, c'est un arbre qui est de la famille du citronnier et qui pousse, il met 4, 5, 6 ans à pousser. Et puis, une fois qu'il a poussé, que son tronc est arrivé à 10, 15 cm de diamètre, on le coupe, malheureusement pour l'arbre, et ensuite on le débite en tronçons. Et ces tronçons d'arbres, qui possèdent bien sûr une écorce, ensuite, tous les jours, tous les matins, toutes les familles birmanes le font, on va prendre une pierre un petit peu rugueuse, et puis on va rajouter un petit peu d'eau sur cette pierre, et ensuite on va frotter le tronc, et il va évidemment y avoir une espèce de poussière d'écorce de tanaka qui va se mélanger à l'eau, qui va former une pâte, et cette pâte, on va se la mettre sur le visage, entre autres, plus particulièrement sur les parties saillantes, c'est-à-dire les pommettes, le nez, le menton, parfois le front. Et la légende nous dit que le tanaka a des propriétés extraordinaires, rien n'est prouvé bien sûr, mais on peut conserver la légende. Toujours est-il qu'une chose est certaine, c'est un cosmétique qui est relativement intéressant et principalement pour se protéger du soleil. Alors comme... une grande partie de la Birmanie, à peu près 70%, est rurale, donc travaille dans les champs. Inévitablement, elle est confrontée au soleil, elle se protège avec les chapeaux, mais les hommes comme les femmes, les enfants, se mettent du tanaka donc pour se protéger du soleil. Et c'est resté dans la tradition, et même si vous êtes un citadin, donc si vous n'allez pas dans les champs, on continue à vous mettre un petit peu cette pâte miracle, parce qu'on lui attribue...
Et c'est très étonnant, parce qu'effectivement, une grande, grande majorité de Birmans ou cette poudre sur le visage, c'est très surprenant. C'est
exactement.
Et Emmanuel,
exactement.
Je me demandais, Bruno, s'il n'y avait pas aussi une coquetterie chez certaines femmes, parce qu'elles font des ronds sur les joues, d'autres font plutôt des traits, donc est-ce qu'il n'y a pas un peu comme un maquillage?
Alors vous avez raison, étant donné que c'est une espèce de crème qui est extrêmement voyante, hein, c'est pas comme une crème solaire que vous mettez, que vous tentez un petit peu de diluer pour qu'on ne la voit pas trop. Là, c'est volontairement visible, et comme c'est pas très joli quand vous la posez n'importe comment comme ça, les élégantes, et il y en a beaucoup en Birmanie, eh bien, avec des peignes, parfois même avec une feuille d'arbre, notamment l'arbre du Bouddha, le fameux ficus religiosa, elles se collent ces feuilles une fois qu'elles ont déjà mis la crème sur leurs joues, et lorsqu'elles la décollent peu de temps après, vous avez toutes les nervures de la feuille qui apparaît, la forme de la feuille qui apparaît sur votre joue, et ça confère effectivement une certaine, voire une très grande élégance.
Bruno, on dit beaucoup aujourd'hui que la Birmanie, c'est la Thaïlande d'il y a 50 ans, c'est-à-dire la Thaïlande avant qu'il y ait un tourisme en nombre comme ça, et que donc c'est encore un joyau préservé. Vous êtes d'accord avec ça ?
Absolument. On ne peut être que d'accord avec ça. Alors évidemment, l'image d'une Thaïlande d'il y a 50 ans, on aimerait, nous qui vivons en Birmanie, que les villages birmans profitent également un petit peu du modernisme, qu'ils aient l'eau courante, l'électricité, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais il n'empêche que tout marche à un rythme en adéquation avec la nature. C'est un peuple extrêmement rural, donc tout ce qui est ruralité est extrêmement chaleureuse, conviviale, vous voyez. Et effectivement, on est sur des routes où on va rencontrer assez souvent, lorsqu'on s'écarte des sentiers classiques, on va rencontrer des chars à bœufs, on va rencontrer des gens qui vont au champ tous ensemble en chantant quelques chants populaires, etc., etc. Alors on peut dire oui que c'est la Thaïlande d'il y a 50 ans, même si, encore une fois, on aimerait que les choses évoluent pour les villageois. Mais par contre, ce qui est important de souligner, Philippe, comme vous l'avez dit, c'est que c'est un pays qui, jusqu'à présent, ne pratiquent pas le tourisme de masse. Et ça, c'est formidable parce qu'on a le sentiment de découvrir un pays à son rythme et d'être un petit peu, non pas seul au monde, mais enfin de découvrir et d'être très très loin de la France, par exemple, pour ne citer qu'elle.
Très bien.
C'est très agréable.
Bruno, vous restez avec nous parce que je trouve que vous parlez merveilleusement de ce pays. On se retrouve dans un tout petit instant en Birmanie sur Europe 1. Et je vous raconterai aussi une autre histoire, c'est celle du slow train, le train le plus long, le plus lent, mais pas le plus long, il est court, le train le plus lent du monde, dans un instant sur Europe 1.
Philippe Googler sur Europe 1.
Nous sommes en Birmanie aujourd'hui sur Europe 1 jusqu'à 18h. Et je voudrais vous parler d'une petite expérience personnelle. C'est un petit train que j'ai pris là-bas lors d'un tournage des trains comme les autres. C'est un petit train qu'on appelle le slow train, le train lent. Donc au moins, ce train, il affiche la couleur. Donc il faut aller le chercher au milieu du pays, en altitude, dans la montagne birmane, à environ 1300 mètres d'altitude, dans un petit village qui s'appelle Kalo, et que les colons britanniques, quand ils étaient là, il y a longtemps, adoraient parce qu'ils y trouvaient un peu de fraîcheur. Donc c'était une espèce de petite station d'altitude. Et il y a une petite gare là-bas qui date de l'époque. Il faut imaginer, au milieu de la Birmanie, une petite gare en briques avec un look vaguement anglais. Il y a des panneaux indicateurs en bois, des rails envahis par les herbes, avec des canards, des cochons qui passent au milieu de la voie. Et sur le quai de la gare, il y a un arbre, un bel arbre. Et au-dessus de l'arbre, un homme perché qui est en train de cueillir des avocats. Parce qu'il y a c'est un arbre qui produit des avocats, donc il faut bien que quelqu'un les cueille, et il y a sa femme qui les ramasse en bas. Donc vous voyez, l'ambiance de la gare est assez relaxe. Et donc, c'est ici, dans cette petite gare d'altitude, que tout le monde attend le slow train. Et quand je dis slow, lent, c'est clair. Hein, sur les horaires, vous voyez qu'il va faire 50 km en 3 heures. Donc ça, c'est s'il n'y a pas de retard. Hein.
Ça, c'est du slow travel. Hein.
C'est du slow travel. Ouais, ça veut dire que ça nous fait au mieux un petit 13-14 km
en moyenne. C'est bien pour faire des photos, ça, à travers les vitres. Oui. Hein.
Pour photographier des oiseaux, par exemple.
Oui, par exemple.
Alors, moi, je suis sur le quai de la gare. Il y a le monsieur qui cueille ses avocats, les poules qui traversent. Puis tout d'un coup, il y a le train qui arrive. Alors, il est bondé. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de succès. Et je grimpe à bord au milieu des paquets, des paniers et des birmans. Alors à l'intérieur, c'est plutôt rustique, hein, c'est banc en bois. Le train, c'est une carcasse de métal qui roule sur des rails un peu cabossés, donc ça fait pas mal de bruit. Ça grince, ça secoue, ça danse énormément. Mais bon, il y a une ambiance. Et puis alors, je rencontre une passagère, une vendeuse de fleurs qui allait mettre 2 jours pour aller à la capitale. Et je me souviens qu'à l'époque, c'était il y a 6-7 ans, elle était encore très très émue à l'idée de me parler. Car c'était la première fois qu'elle s'autorisait à parler à un étranger. Et j'aime autant vous dire que ça m'avait fait drôle. La Birmanie s'ouvrait depuis quelque temps, pas si longtemps que ça, après avoir vécu un des régimes les plus durs au monde. Le pays avait été totalement fermé pendant 50 ans. Et cette voyageuse, cette Birmane, elle se rendait compte d'un coup en me parlant que pour la première fois, elle parlait sans avoir peur de la prison. Et elle en était émue aux larmes. Et ça m'avait beaucoup touché. Elle ne me disait pas grand-chose. Hein. Elle me disait juste que son voyage était un peu long, qu'elle allait essayer d'acheter des fleurs à la capitale pour en ramener. Mais juste ça, le seul fait de me dire ça librement, elle pleurait. Et ça m'avait, c'est un de mes souvenirs les plus touchants de Birmanie. Et puis le train lent, il était très lent. Moi, sur mon parcours, sa moyenne, c'était 7 km/h. Et c'est quand même assez rare, un train où on peut se dire qu'on peut aller plus vite à pied qu'en train. C'est très, très rare. Et la raison, c'est que c'est une vieille ligne qui n'est pas en super état, qui a été construite il y a très longtemps par les Anglais, qui en plus serpente dans la montagne. Donc voilà, tout ça additionné, ça fait un train très, très lent, réputé le plus lent du monde. Et j'ai même rencontré à bord une dame qui, avec les correspondances, allait voyager 9 jours avec un enfant sur les bras, assise sur son banc. 9 jours. Bon, et ça n'avait pas l'air de la gêner plus que ça.
Ouais, c'est des conditions de vie que nous, on n'imagine pas. Voilà. De déplacement qu'on n'imagine pas. Ouais.
La relation au temps là-bas n'est pas tout à fait la même.
Et si on partait sur Europe 1, 2 heures d'évasion avec Philippe Googler.
Nous sommes en Birmanie et Bruno Boulier est français. Il est installé là-bas en Birmanie depuis 12 ans. Il est propriétaire d'un hôtel qui s'appelle le Mingum River à côté de Mandalay.
Et si on part.
Et Bruno, il y a moi quelque chose qui m'a beaucoup touché pendant ce voyage en Birmanie et je suis sûr que vous ressentez la même chose, c'est pas possible autrement. C'est l'extrême gentillesse des gens. Moi, je le classe dans le top 3 des pays où les gens sont les plus gentils au monde, les plus bienveillants. C'est toujours le cas?
Alors, absolument, Philippe, vous avez tout à fait raison. C'est d'ailleurs pour ça, pour ma part, hein, et je connais de nombreux Français qui s'y sont installés, c'est aussi pour ça qu'on est resté. Une fois qu'on a un pied en Birmanie, on y met le deuxième, et le deuxième est mis tout simplement par le côté très chaleureux des gens, leur sourire constant, cette manière qu'ils ont de vouloir à tout craint vous rendre service, etc. C'est très touchant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et on a envie de faire des choses avec ces gens-là. Mmh. Alors peu importe qu'ils soient de l'ethnie birmane, peu importe qu'ils soient de l'ethnie chan ou d'une autre ethnie, ils sont quasiment tous unanimes sur cette chaleur humaine et ça vous change un petit peu, ça vous change mmh. quand vous êtes au contact de tous ces gens-là. Alors vous avez raison de le mettre dans le top 3 parce que il y a peu de pays où il y a autant de convivialité, autant de gentillesse sans rien attendre en retour.
C'est ça.
Alors quand vous souriez vous-même, ils adorent évidemment, mais à la limite, c'est pas grave si vous restez de marbre, ça arrive, hein, y a des gens qui sont moins réceptifs que d'autres, mais cette chaleur humaine, elle est vraiment omniprésente hier, aujourd'hui et on l'espère demain encore pendant très longtemps.
Moi j'ai une explication moi, qui est la mienne, mais est-ce que cette oppression, cette chape de plomb qui a régné sur le pays pendant 50 ans, est-ce que finalement ça a renforcé les liens que les Birmans ont tissés les uns avec les autres pour s'unir, pour se protéger des difficultés de vivre, et du coup ça a créé cette forme de bienveillance?
Alors je pense que vous avez raison, hein. Ça c'est une évidence. Alors évidemment on va pas parler des problèmes interethniques, hein, parce que là il y aurait beaucoup à dire, mais il est évident dans la région que je connais le mieux, c'est-à-dire la plaine centrale autour de Mandalay, vers le lac Inlet et jusqu'à Yangon. Oui, je pense que l'oppression, je pense que la sévérité du régime a fait que les gens se sont entraidés naturellement. Ça c'est un premier point, hein, le point politique. Et puis le deuxième point, c'est la pratique de la tradition bouddhiste. Inévitablement, le bouddhisme est pour beaucoup, lorsque tous les moines vous enseignent les différentes voies de moralité, les voies à suivre pour un bien-être terrestre, je pense que tout ça, ça joue. Et les gens sont naturellement voilà, gentils, ils suivent cette voie-là. Donc c'est très touchant, encore une fois. Hein. C'est vraiment l'une des forces du pays, cette chaleur.
Ouais. Merci beaucoup Bruno Boulier de nous avoir raconté à votre façon la Birmanie. Et j'espère qu'on aura d'autres occasions d'échanger autour de ce pays qui est incroyable. Dans un tout petit instant, nous irons dans une région encore plus reculée de Birmanie, chez l'ethnie, chez les Dawai, en compagnie d'un réalisateur, Ludovic Fossard, qui a passé beaucoup de temps avec eux. Pour l'instant, on respire un petit peu, petit air estival qu'on aime bien sur Europe 1, avec Major et Greasy.
Europe 1, Philippe Googler.
Et si on partait, nous sommes en Birmanie, un pays absolument fascinant, qui s'est ouvert encore relativement récemment. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à explorer. Nous sommes avec Ludovic Fossard, qui est journaliste, grand reporter, qui vient de faire paraître à la rencontre des peuples des mers aux éditions Glénat, et qui est allé à la rencontre du peuple des Dawai en Birmanie. Bonjour Ludovic.
Bonjour Philippe.
Alors le peuple des Dawai, si on pose un peu le décor, apparemment ils sont dans des lieux absolument sublimes. C'est les plages blanches, vierges, où il n'y a personne, dans une Asie qu'on fréquente peu.
Alors vraiment ce qui est étonnant, incroyable, surtout dans cette Asie du Sud-Est qui est si peuplée, si dynamique, c'est de voir un paysage totalement vierge, avec des plages de sable fin qui s'étendent sur des dizaines de kilomètres, des forêts intactes, des rivières magnifiques. Enfin, c'est vraiment c'est un voyage dans une sorte d'Asie éternelle, une sorte d'Asie de, comme vous disiez, il y a 50 ans. C'est vraiment un endroit extrêmement bien préservé. Ouais.
C'est incroyable. Et pourquoi est-ce que c'est bien préservé à ce point-là?
Alors, il y a évidemment, c'est l'un des rares bons côtés, si on peut dire, d'une dictature, c'est que la Birmanie malheureusement a été sous domination d'une junte militaire pendant très longtemps qui a empêché l'explosion du tourisme. Mm-hmm. Et puis il y a aussi une autre raison, c'est que géographiquement c'est un endroit assez isolé et on a construit une route il y a simplement 3 ans. Depuis, on peut avoir accès à cette région, mais avant c'était quand même une région très fermée, très difficile d'accès, même si aujourd'hui ça demeure encore un endroit pas évident pour un touriste qui a envie de s'y aventurer. Enfin, évidemment, administrativement, tout le monde peut y aller, mais ça n'empêche que c'est encore un peu roots, comme on dit.
Ouais. Et alors, les Dawaï, comment est-ce qu'ils vivent? De quoi ils vivent sur les côtes?
Ah ben les Dawaï, ils n'ont pas grand-chose, hein, puisque c'est difficile de trouver de l'argent. Donc, on vit essentiellement avec du troc. Donc, nous, on a rencontré un pêcheur qui s'appelait Kanmo. Lui, pour vous parler concrètement, il habite dans une maison sur pilotis où, d'une trentaine de mètres carrés dans laquelle il fait vivre 12 membres de sa famille. Alors, il y a sa femme, ses enfants, ses cousins, ses oncles, ses tantes. Enfin, il y a une sorte de famille élargie. Et pour nourrir tout ça, il faut aller chercher du poisson. Et c'est la seule façon, puisque effectivement, il n'y a pas d'échanges commerciaux qui sont vraiment très développés. Donc lui, il amène le poisson, puis avec le surplus du poisson, il achète de l'essence pour retourner à la pêche, et ils achètent un peu de riz parce qu'ils ne cultivent pas. Et donc du coup, c'est une vie vraiment, vraiment en autarcie.
Emmanuel ?
Oui, dans le documentaire que j'ai vu, que vous avez réalisé, on vous voit partir en mer avec le pêcheur et vous dormez, enfin il passe plusieurs jours en mer parce qu'il va loin, ou pourquoi il faut passer tant de temps? Pour prendre le temps de la pêche?
Ah oui, c'est ça aussi qui est magique, hein. Donc nous, c'était une série documentaire qu'on a fait pour Arte, donc on embarque avec lui pendant plusieurs jours dans son quotidien de pêcheur au large des côtes, et il part quand même assez loin, à une quinzaine de kilomètres des côtes, et puis une fois qu'on est embarqué, la pêche, il faut remonter les filets, ça prend quand même plusieurs heures à chaque fois, il faut les déposer, donc du coup il part en général 3 jours et il espère amener autour d'une centaine de kilomètres de poisson.
Mais comment il le conserve au frais, le poisson, 3 jours en mer sous le soleil birman?
Alors, ils ont des techniques assez à la fois artisanales et industrielles. C'est-à-dire qu'il y a dans le village une espèce de très vieille usine, tout à fait photogénique, très rouillée, mais qui fabrique de la glace en grande quantité. Et donc, du coup, il achète ou il échange contre des poissons des pans de glace qu'il emmène et qu'il place dans des sortes de glacières, en fait, des caisses en polystyrène. Et c'est comme ça qu'il conserve son poisson pendant les 3-4 jours de pêche.
Ah ouais. Et alors, la technique de pêche est assez particulière. Ça marche avec des lampes, c'est ça?
Alors, ça dépend lesquelles. Il n'y a pas. Lui, il pêche plutôt et plutôt à la ligne. Mais après, sur cette mer d'Andaman, là où ils pêchent, il y a des beaucoup plus gros bateaux qui sont des sortes d'araignées géantes avec des pattes tapissées de lanternes. Et alors, le soir, c'est complètement incroyable comme vision. En fait, il y a des centaines de gros bateaux comme ça qui déploient leurs lanternes et qui, du coup, c'est une lumière assez verte, en fait, sur la mer. Donc, ça fait comme un ciel étoilé posé sur la mer. Et les anchois sont attirés par la lumière et ils les ramassent dans des grands filets.
Ah, ça doit être magnifique, ça.
Ah, c'est exceptionnel. C'est vraiment très, très joli comme ambiance et comme paysage. C'est étonnant parce que là, tout d'un coup, à la tombée de la nuit, tout l'horizon de la mer s'éclaire de ces lumières vertes. C'est absolument magnifique. Oui.
Emmanuel ?
Oui, ce qu'on voit aussi dans le film, c'est que la lumière, donc c'est ces pêcheurs, mais c'est aussi parfois les pirates. Il faut distinguer les lumières, enfin savoir les différencier.
Évidemment,
oui, parce que
la
danger,
vie des pêcheurs.
Le danger là-bas, c'est effectivement pour tous ces gens, c'est les pirates, c'est redoutable.
Ah bah la vie des pêcheurs birmans, en tout cas des pêcheurs de ce village, c'est pas de tout repos. Donc du coup, il y a déjà les dangers de la mer, hein, puisqu'il y a beaucoup de cyclones, la mer peut être très violente et il y a beaucoup de courants aussi, puisqu'il y a des grandes amplitudes de marée. Et puis effectivement, l'autre danger terrible, c'est les pirates. Alors ils disent que c'est des pirates qui descendent du Bangladesh, qui est pourtant assez loin, mais tout d'un coup, ils peuvent vous tomber dessus et puis là, ils vous tuent. Il vous lance à la mer et puis il récupère votre bateau et le peu de biens que vous avez. Donc du coup, c'est une crainte constante qui fait que les pêcheurs sont toujours sur le qui-vive. Sur le bateau, il y a toujours quelqu'un qui veille à bien identifier les lumières, à regarder le rythme de déplacement. S'il y a une lumière qui se déplace trop vite et qui semble inconnue, parce qu'évidemment, ils sont très habitués visuellement à ce qu'ils voient, et tout de suite, hop, on plie bagage, on ferme tout ce qui permet de nous identifier et on part dans la nuit pour essayer d'échapper à ce potentiel danger.
Est-ce qu'il y a un dieu de la mer qui les protège?
Là-bas, il n'y a pas de bateau de sauvetage, il n'y a pas de liaison radio. Donc la seule chose qui peut vraiment les protéger, en tout cas dans leur esprit, c'est effectivement leurs croyances. Et donc ils ont un dieu qui s'appelle Oshinji. Pour eux, c'est le seigneur des mers, c'est un dieu qui se présente. Alors, il a une figure humaine, hein, c'est un jeune homme qui est souvent représenté avec un crocodile et un tigre et qui tient dans ses mains une harpe, en fait. Et ce dieu de la mer, Il faut l'honorer, donc pour l'honorer, il y a toute une tradition, il faut aller chercher des noix de coco dans la forêt, et puis après on lui apporte des cigarettes, parce qu'il aime bien ça, on lui apporte des un peu de riz, un peu de fruits, un peu de poisson, voilà, et on le nourrit, et on espère avoir sa bienveillance quand on s'aventure vers le large.
Merci beaucoup Ludovic Fossard, vous nous avez emmené très très loin là, vous savez.
Merci beaucoup à vous de nous avoir reçus.
Je rappelle que vous êtes journaliste, grand reporter, et que vous venez de faire paraître un livre qui s'appelle « À la rencontre des peuples des mers » aux éditions Glénat. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir. Et dans quelques instants, encore plus de Birmanie, mais côté saveur, avec Emmanuel Jarry et toute la bande de voyageurs. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Et si on partait ? Philippe Googler.
Tout l'été, tous les jours, entre 16h et 18h, un grand voyage sur Europe 1. Nous sommes en Birmanie aujourd'hui. Et je vous emmène maintenant en compagnie d'Emmanuel Jarry dans un endroit absolument incroyable. C'est au centre du pays, c'est un lac qui s'appelle le lac Inle, qui est magnifique. Et sur ce lac, vous avez des villages qui flottent, des villages entiers.
Tout à fait.
Où les hommes trouvent leur nourriture d'une manière assez étonnante.
Oui, exactement. Donc le lac Inle, c'est le deuxième plus grand lac du pays. Il y a 100 000 personnes qui vivent sur le lac et autour du lac. Et on les appelle les fils du lac, les Inta. Et en fait, quand on découvre leur mode de vie, on comprend pourquoi, parce qu'ils sont pêcheurs et agriculteurs et ils ont réussi même à faire de l'agriculture sur le lac. Donc en fait, on les connaît beaucoup parce que quand même, il y a des images, la carte postale, c'est ça, hein, c'est l'Inta qui pêche sur le lac et il rame avec ses pieds. Et en fait, les Inta rament avec les pieds pour libérer les mains parce que...
Ils rament avec ses pieds, il y a une grande perche, enfin, c'est assez technique.
Oui, exactement. Oui, c'est très technique.
C'est difficile à expliquer à la radio.
C'est assez oui, mais c'est très photogénique. En fait, il enroule sa jambe, voilà, c'est ça. C'est très beau, c'est très élégant. Et en fait, ils pêchaient autrefois à la vue, enfin à l'œil, avec des nasses. Et quand ils apercevaient des poissons, ben, ils devaient vite manipuler la barque et avoir les mains libres pour attraper ces poissons. Maintenant, ils font ça avec des filets, mais ils continuent donc de pêcher, de ramer avec les pieds. Et en fait, ils pêchent de moins en moins parce que justement, comme c'est très beau, les touristes viennent les voir et leur demandent de poser. Et il y a des pêcheurs qui sont transformés en poseurs pour touristes.
C'est qu'ils gagnent plus d'argent en posant
exactement,
qu'en pêchant.
Ouais. Donc ils viennent avec leur nasse, ils s'habillent un peu en costume traditionnel et puis voilà. Et donc, c'est développé l'agriculture qui existait déjà et sur des jardins flottants. Ça, c'est très, très beau.
Des jardins qui flottent sur le lac.
Oui, tout à fait. En fait, ce sont des îlots artificiels qui sont composés d'une masse de végétaux aquatiques, des algues, des jacinthes d'eau, qui se forment en fait sur les rives du lac, que les hommes ou les femmes découpent en bandes et qui recouvrent de terre, de boue, pour les ensemencer, pour cultiver des légumes, des concombres, des aubergines, des haricots, des fleurs aussi, pour les pagodes, parce qu'il y en a tout autour du lac et dans tous les villages. Et principalement des tomates, qui sont en plus considérées dans tout le pays, parce qu'elles sont très juteuses, une peau très fine. Et alors ce qui est formidable, c'est que les femmes se rendent en barque sur ces jardins flottants, et elles les travaillent depuis la barque. Forcément, elles ne peuvent pas se mettre sur les jardins, parce qu'il n'y a pas de... c'est pas dur, quoi. Donc c'est très beau à voir et il faut imaginer en fait le spectacle à la fois des pêcheurs. On y va souvent quand on est touriste au moment du lever ou du coucher du soleil parce qu'il y a une très belle lumière et on voit les bateaux passer, on voit les hommes qui rament avec le balai des bateaux et tout ça. Donc c'est un très bel endroit, c'est très émouvant.
Mais c'est un endroit plus très paisible qui dégage
c'est ça. Il y a
une sérénité exceptionnelle.
Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais.
Et au Nouvel An birman, il se passe quelque chose?
Alors voilà, moi je suis arrivée en Birmanie au mois d'avril. Donc c'est la fête de l'eau. Alors déjà, j'ai atterri à Rangoon. À peine arrivée dans le centre-ville, j'ai pris un seau d'eau. Et ça a duré plusieurs jours. Comme ça, on vous jette des seaux d'eau. Alors au début, j'étais un petit peu embêtée. Enfin,
comme ça dans la rue?
Oui, comme ça. Et en fait, il y a des chars qui passent, des piétons qui passent. Et ils vous jettent des seaux d'eau pour vous purifier. En fait, ils jettent...
Mais que pour le Nouvel An, pas tous les jours.
Non, c'est pendant 4-5 jours de fête, voilà, pour le Nouvel An. Et alors après, quand je suis arrivée sur le lac, la période de l'eau, enfin où on se jette de l'eau, était terminée. Mais par contre, les Birmans étaient dans les pagodes. Et alors, ce qui est formidable, j'adore ça en Asie, c'est qu'on vit dans les pagodes. Hein. C'est pas que des lieux où on prie. Et donc, ils organisaient des grands pique-niques. Ça, j'aime beaucoup aussi, parce que c'est des lieux très apaisants, les pagodes. Et donc, en fait, comme c'est des gens très accueillants, ils m'ont invité à pique-niquer. Et là, j'ai goûté un plat qui est assez unique en Asie. C'est la salade de feuilles de thé fermentée. En fait, il y a très peu de pays où on cuisinait autrefois les feuilles de thé.
Ah oui ?
Et il y en a plus beaucoup. J'ai vu ça dans les montagnes de Taïwan, où on cultive le thé, où on le mange. Mais c'est devenu très rare. Peut-être qu'il y a certains endroits en Chine. Donc là, c'est vraiment une salade qu'on mange tout le temps. C'est le plat national. Et elle est accompagnée. Alors, elle est servie dans des très jolies boîtes en bois laqué, compartimentées. Et on les agrémente de lamelles d'ail frit, de fèves de soja, de crevettes séchées, de cacahuètes. Et après,
c'est bon?
Ah oui, c'est délicieux. Enfin,
ça a le goût de quoi ? De thé ?
Bah, c'est très astringent. Les feuilles de thé sont très astringentes, mais alors ensuite, bah, elles sont assaisonnées avec de l'huile, du sel, du piment, et puis bah, toutes ces petites choses autour, quoi. Alors, on les sert souvent soit à l'apéritif, enfin pas à l'apéritif, parce que là-bas, c'est pas l'apéritif, mais en début de repas, enfin, comme un snack, ou alors en fin de repas, parce qu'on disait que c'était un moyen de, quand il y avait des différends entre des personnes, bah, de sceller une réconciliation, en fait.
Comment
cette
ça
salade. Oui, bah, c'était une offrande qu'on faisait pour marquer qu'on avait envie de se réconcilier avec quelqu'un.
Ah, ouais,
donc c'est un plat qui a une valeur symbolique aussi. Ce n'est pas uniquement pour se nourrir, en fait. Donc voilà, et les Inta consomment aussi beaucoup de poissons. J'en ai mangé pas mal, mais aussi du porc. Ils privilégient des modes de cuisson à l'étouffée dans des feuilles de bananier. On mange du riz gluant accompagné de porc, de pâte de poisson mélangée à du riz avec de l'huile au curcuma, du sel. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'ethnies région.
Donc il doit y avoir plein de saveurs différentes.
Exactement. Chaque ethnie, chaque minorité a sa cuisine. Les Shan, dont j'ai parlé au début, parce qu'on est dans l'état Shan, ils ont développé une cuisine particulièrement raffinée avec des soupes de fleurs d'acacia. Ça, c'est très très bon.
Soupes de fleurs d'acacia. C'est ça que j'aime dans ces pays, c'est rien que le nom déjà.
Exactement. En voyage, on se dit que ça doit être fin. Et puis surtout, c'est surprenant.
Bon.
Ouais, c'est fin, comme vous dites. Puis surtout, c'est surprenant, toutes ces fleurs blanches. C'est proche de la cuisine thaï. On retrouve beaucoup de lait de coco, de soupe de vermicelle, de riz gluant, avec du basilic, du piment. Il y a aussi les Pao, une autre ethnie. Alors eux, c'est un peu différent. Ils font beaucoup de gâteaux salés composés de pâtes de soja. Et puis, il y a des spécialités un peu plus compliquées à avaler, peut-être pour certains. C'est les fourmis rouges aux cacahuètes et au piment.
Ah, tiens. Ah, j'ai pas goûté ça, moi.
Ça, vous avez pas goûté. Non. Nathalie, vous avez goûté, vous ?
Non, je ne suis pas allée malheureusement en Birmanie, enfin pas encore, mais justement, je voulais poser une question à Emmanuel. Est-ce qu'on retrouve aussi la coutume de la street food, comme un petit peu partout en Asie, comme la Thaïlande, parce que vous ne parlez pas pour l'instant de la street food.
Non, parce que là, c'est vrai que j'ai été beaucoup
autour du lac.
C'est vrai que c'est difficile. Non, mais en tout cas, sur le lac, on mange dans des restaurants surpilotis. Il y a des épiceries, tout est surpilotis, donc ça, on se déplace en bateau. Par contre, à Rangoon, oui, autour des pagodes, et puis il y a un marché central à Rangoon, où là, il y a beaucoup de vendeurs ambulants, et c'est bon de manger là-bas.
Sans risque.
Moi, je pense que oui, on peut goûter. Il faut prendre des aliments.
Moi
non plus, du tout. Les fourmis rouges aux cacahuètes et aux piments, ils font aussi des cakes au soja, des cakes par contre de soja aux fourmis blanches, toujours avec du sel et du piment.
Et c'est quoi le goût des fourmis rouges et le goût des fourmis blanches ?
Franchement, moi, j'ai pas senti le goût. C'est surtout que je pense que ce sont des protéines. À l'origine, c'est pour ça qu'ils les consomment. Ouais. Hein. Les insectes, c'est une source de protéines. Et puis après, ça c'est un petit peu comme le sel, quoi. Ça craque un peu sous la
dent. Ça craquote.
Légèrement.
Ah bon, vous n'avez pas goûté ça, vous, Jean-Bernard, du tout ?
Non,
je me surprenais.
Non, pas les fourmis, pas pour une fois. Bon. Mais les insectes, je crois qu'on va au Cambodge dans quelques semaines.
Ouais.
On parlera des insectes.
Ah oui, beaucoup là.
Jean-Bernard, on vous retrouve dans un instant sur Europe 1 pour tous vos bons plans pour aller en Birmanie.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Nous sommes en Birmanie jusqu'à 18h. Alors la Birmanie, c'est une destination qui a longtemps été complètement fermée, qui peut encore faire un peu peur. Jean-Bernard Carrier, quels sont les bons conseils que vous nous donneriez pour ceux qui rêvent d'aller en Birmanie, évidemment, quand on sera sorti de cette histoire de Covid ?
C'est vrai que la Birmanie a longtemps été contrôlée par un régime politique dur, militaire, c'est une junte, et c'est vrai que cette junte, elle contrôlait, elle orientait les flux touristiques. Alors aujourd'hui, tout ça s'est très largement desserré depuis Aung San Suu Kyi est au pouvoir. Il y a juste une région dans laquelle on ne peut pas encore aller facilement, c'est la région des Rohingyas.
Ah bah oui.
Voilà, parce qu'il y a beaucoup de tensions, de conflits militaires avec cette ethnie qui est partagée entre le Bangladesh et la Birmanie. Donc cette région-là, elle est non accessible. Le reste du pays, maintenant,
c'est pas la peine d'essayer d'y aller.
D'ailleurs, il n'y a pas d'intérêt, c'est une zone tendue. En revanche, tout le reste du pays est accessible pour les touristes en utilisant les moyens de transport locaux, les bus, les avions. Il y a un très bon réseau de transport intérieur en avion, par exemple, chose qu'on ne sait pas. C'est un pays qui a vraiment mis le paquet pour développer ses infrastructures.
Alors, on a parlé du lac Inley pendant cette émission, mais il y a d'autres sites qui sont incroyables. Il y en a un que j'adore, c'est le site de Bagan. qui est juste une merveille absolue.
Bah, Philippe, je ressens la même chose que vous. Nous partageons cette
une fois
passion.
De plus.
Une fois de plus pour ce site de
Bagan. On va le faire.
Bon, bah, on vous laisse. Hein.
Alors Bagan, je vais quand même résumer pour nos auditeurs. Bagan, c'est un immense site archéologique et religieux au centre du pays. C'est un petit peu le concurrent du site d'Angkor au Cambodge, pour ceux qui sont allés au Cambodge. Il faut s'imaginer quelques 3000 temples, et non pas 2000. Il y en a jusqu'à 3000 des temples bouddhistes disséminés sur une immense plaine, des temples qui datent des 11e et 13e siècles à peu près. Il y a différents types de temples, il y a des pagodes, il y a des sanctuaires, des mausolées, tous sont construits en briques. Certains ont été restaurés, dont sont restés dans leur jus. C'est un petit peu, si vous voulez, si je devais comparer, comme si vous aviez 3000 églises et abbayes réparties sur 50 000 km², soit à peu près 10 km sur 5. 3000 églises,
c'est unique, c'est incroyable. Voilà. On ne se rend pas compte. Et d'ailleurs, je pense que si vous voulez aller dépenser un petit peu de sous pour en prendre plein les yeux, le meilleur moyen de voir cet endroit, c'est la montgolfière.
Ah, j'allais le dire.
Parce que je vous pique l'idée, excusez-moi, Jean-Bernard. Parce qu'en fait, vous survolez et vous décollez. Parce que quand vous êtes au ras du sol, vous voyez quoi ? 3-4 églises, vous n'en voyez pas 3000. Mais dès que vous décollez un peu, vous vous rendez compte de la majesté de l'endroit.
En fait, il y a deux façons de découvrir le site. Moi, je n'ai pas voulu suivre les sentiers battus, évidemment. Vous me connaissez, Philippe,
comme d'hab.
Voilà, comme d'habitude. À pied, c'est trop grand. On l'a dit, 10 km sur 5, vous ne les faites pas à pied. Il fait trop chaud, ce n'est pas possible. En bus, c'est trop impersonnel. Alors, il reste une autre solution. Le vélo. Moi, j'aime beaucoup le vélo, vous le savez. En deux jours, on peut vraiment balayer tout le site en vélo. On s'arrête où on veut, quand on veut, à son rythme. Et on voit des vestiges.
Il y a beaucoup de sable. Hein. C'est dur de pédaler.
Alors, il y a des endroits qui sont accessibles pour les vélos. C'est de plus en plus prévu aussi pour cette découverte-là. Et il y a beaucoup de vestiges qui sont à l'écart des circuits traditionnels en bus, au calme. Vous avez la sensation d'être seul au monde, dans une plaine magique. Et en plus, à l'heure du déjeuner, il n'y a plus personne. Vous êtes avec votre vélo face à des ruines complètement solitaires. Et vous êtes seul à en profiter. Ça, c'est une expérience de rêve. Plus, vous l'avez dit, la fameuse expérience en montgolfière. Alors, c'est pas le même budget, la montgolfière. Vous comptez à peu près 200 euros. Mais c'est vrai que vous y allez, par exemple. Alors, vous avez parlé de la montgolfière, mais il faut y aller au lever du soleil. Ça, c'est la vraie astuce. Parce qu'au lever du soleil, la texture de l'air n'est pas tout à fait la même, parce qu'il fait moins chaud. Et c'est là que le pilote peut justement descendre au plus bas et il frôle ces fameuses pagodes dans cette plaine. Et en arrière-plan, vous avez le fleuve Irrawaddy. Ça, c'est la carte postale de rêve en Birmanie.
Mais il n'y a pas de vie, enfin de village, tout ça.
Ah, si, justement. Mais vous mettez le doigt sur quelque chose de dingue. C'est que c'est pas un site figé, c'est pas un site mort, c'est un site vivant. Les Birmans, c'est un site religieux actif. Les Birmans viennent sur place réaliser des offrandes. J'ai croisé des moines en tenue orange. On sent la dimension sacrée et mystique quand on est sur place. Donc c'est pas un site archéologique uniquement, c'est vraiment un site avec une ferveur.
Ouais. C'est incroyable. Franchement, ne négligez pas Bagan si un jour dans votre vie vous avez la chance de pouvoir aller en Birmanie. Côté rencontre, Jean-Bernard, vous avez plein de choses dans votre sac.
Ce pays est incroyable au niveau de la rencontre avec les Birmans. Alors on l'a dit, il y a une centaine de minorités ethniques dans ce pays, donc vous avez vraiment le choix. Et chacune a ses coutumes bien distinctes. Alors moi, je voulais vraiment rencontrer les femmes de l'ethnie Chine. Vous allez voir pourquoi, ça se trouve à l'ouest du pays. Je suis parti d'un village qui s'appelle Mindat et je voulais rencontrer ces femmes Chines parce qu'elles ont une particularité absolument phénoménale. C'est que les femmes de cette ethnie ont tout le visage intégralement tatoué, avec des motifs géométriques. C'est une coutume qui a... on ne sait pas très bien l'origine. Est-ce que c'était pour, dans les anciens temps, pour éviter qu'elles soient prélevées comme esclaves, soustraites aux raids des ethnies concurrentes? Mais en tout cas, ces femmes âgées, parce que les femmes, aujourd'hui, c'est une pratique qui est maintenant interdite, qui a perdu de sa validité, mais les femmes âgées portent toujours ces tatouages faciaux, mais même... y compris les paupières d'ailleurs.
C'est impressionnant. C'est horrible, non ?
Et alors, il faut y aller évidemment avec un guide qui vous servira d'interprète et de traducteur. Vous pouvez discuter avec ces femmes et c'est des rencontres absolument magnifiques. J'ai même rencontré des jeunes filles qui avaient envie de reprendre cette tradition, mais désormais, c'est interdit parce qu'elle considère que c'est une très belle parure. Aujourd'hui, ça redeviendrait presque tendance.
Nathalie ?
Donc, la poudre d'arbre dont on parlait tout à l'heure, la poudre de citronnier, là, le tanaka, n'existe plus du tout là, dans cette ethnie ?
Pas dans cette ethnie. Le tanaka, c'est surtout pour les ethnies, la principale ethnie birmane, qui sont les Shan. C'est plutôt eux qui ont ce tanaka.
Il faut se repérer. Hein.
Voilà. Ah, mais c'est une mosaïque culturelle et ethnique, la Birmanie.
Ouais, c'est
ça qui est génial.
D'autres rencontres stupéfiantes, Jean-Bernard ?
Avez-vous entendu parler des femmes girafes ?
Oui.
Alors, bon, c'est
très
controversé.
Drôle,
alors, je les ai rencontrés. Je suis allé près de... C'est les femmes de l'ethnie Kayan. Je suis allé près de Loy Kao, avec un guide également. Alors, beaucoup d'émotions quand j'ai approché ces femmes, parce qu'effectivement, c'est quand même incroyable. Elles portent des anneaux en laiton empilé autour des jambes et des colliers tubulaires autour du cou. Et chaque année, on rajoute un collier, ce qui fait que en fait, c'est pas le cou qui s'allonge, c'est les épaules qui s'abaissent. Voilà, c'est un peu ça la nuance. Alors, certains disent oui, c'est une forme de torture, etc., qu'on inflige aux femmes. Alors, J'ai discuté avec des jeunes femmes girafes qui m'ont dit « Pour nous, c'est une parure. On est assez fiers de porter ça tant qu'on ne nous l'impose pas. » Donc, il y a des fêtes très régulières où elles adorent mettre ces parures-là. C'est plus quelque chose qui est imposé.
Elles peuvent l'enlever.
Elles peuvent l'enlever, tout à fait. Alors, ça demande un petit peu quelques manipulations, mais elles peuvent l'enlever. Ce n'est pas une torture comme j'ai pu voir certains reportages qui disent que c'est, voilà, c'est une forme de on impose aux femmes une certaine tenue, etc. Les jeunes aujourd'hui, et ces femmes que l'on voit dans ces villages-là, ont choisi
moi
de
aussi,
le porter.
Celle que j'ai rencontrée.
Ouais, voilà, elles ont choisi de le porter, elles en sont fières.
Vraiment, c'est pas un truc aussi un peu à touriste où on fait venir voir les femmes girafes?
Alors, pas du tout, pas où j'étais. Moi, j'ai trouvé que les rencontres étaient spontanées. Faut y aller avec un guide, toujours. Le guide sert effectivement d'interprète. Moi, j'ai pas du tout l'impression d'être d'un zoo humain. Ça, je déteste ces ambiances-là. Là, on était vraiment dans des rencontres spontanées. Ces femmes girafes, elles ont un vrai métier. La plupart, elles font du tissage. Elles tissent des tissus. Vrai. Donc, vous achetez leurs tissus, par exemple. C'est un bon moyen de les rencontrer. Les photos, vous ne les faites pas en appuyant comme ça, vous demandez, il faut que ça soit consenti. On est dans un vrai rapport humain. Et puis, dans ces villages-là, vous l'avez dit, la Birmanie, ce n'est pas très touristique, vous serez quasiment les seuls.
Merci beaucoup, Jean-Bernard. On pourrait faire 3-4 émissions sur la Birmanie. Vous l'avez dit, c'est beaucoup, beaucoup d'ethnies différentes, beaucoup de situations différentes. C'est vraiment un pays extrêmement intéressant. Demain, on va changer complètement d'univers. Nous partirons au pays de la Samba, du carnaval, des plages de Copacabana et d'Ipanema.
Ça va être chaud.
Et nous irons aussi jusqu'au cœur de l'Amazonie. Vous avez compris qu'on irait au Brésil. Et puis en première heure, direction les Hautes-Pyrénées avec des sites aussi exceptionnels. Le Pic du Midi, le Cirque de Gavarnie et bien sûr Lourdes. Tout cela demain, mais tout de suite, dans quelques secondes, le grand journal du soir. Bonjour Thierry Dagérard.
Comment allez-vous Philippe? Vous avez passé un bon week-end?
C'était bien. Et puis je sais que demain, on va parler du Brésil. Du Brésil autrement que via le Covid, parce qu'on a quand même oublié que c'était un pays fabuleux.
Alors on vous écoutera demain dès 16h. Merci beaucoup Philippe.
Bonne soirée.
Dans un instant, place à l'info sur Europe 1.
Europe 1.